France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Isabel García Sanz, je le dis avec l'accent espagnol. Je suis née à Madrid, la fecha, j'ai pas de complexe, un 29 juin 1934. Et je suis soprano lyrique.
Bonjour Isabel García Sanz.
Bonjour.
J'ai pas tout à fait le bel accent que vous avez. Je le regrette, ça chante quand vous le dites.
Bon. Oh.
Alors on vous entendait vous présenter, vous êtes aujourd'hui un professeur recherché. Vous avez eu une carrière magnifique de chanteuse, de récitaliste, de chanteuse d'opéra. Prisée, vous êtes toujours ce chant extrêmement raffiné, vous avez tutoyé les plus grands avec qui vous avez partagé le plateau, vous avez partagé les micros et tout ça évidemment nous allons y revenir. On loue souvent quand on parle de vous aussi votre lucidité et cette culture musicale si vaste qui vous permet de chanter des choses depuis le 12e siècle jusqu'à aujourd'hui. Cette ouverture d'esprit rare. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici, un beau samedi de printemps à Paris, dans ce lieu incroyable qui semble vous ressembler terriblement. Il est généreux, haut de plafond, on sent qu'on peut y donner de la voix. C'est un lieu dans lequel vous êtes bien ?
Oh, je suis très bien, je suis très bien. J'ai eu la chance qu'à Paris, tous les appartements que j'ai occupés, j'étais des ateliers de 6 mètres de hauteur. Je les ai trouvés comme ça, je crois que je suis très protégée. Et vraiment, j'ai toujours trouvé parce qu'il fallait que je mette mon piano à queue. Et il fallait que je trouve toujours un endroit grand où je puisse les cacher parce que sinon, c'était impossible.
Vous êtes protégée par quoi ? Par des anges ?
Je sais pas, je crois que je suis protégée par quelque chose. Et je vais vous dire, beaucoup de voyantes me l'ont dit depuis toujours. Ah ! Tu es très protégé, mon petit. Ah, vous êtes très protégé. Hein. Je dis, ah bon, ok, très bien. Et c'est Jean Cocteau qui me l'avait dit aussi. Quand j'ai fait l'opéra d'Aran, en 62, aux Champs-Élysées, j'ai fait Maureen. Et après, on a fêté l'anniversaire de Gilbert Bécaud. C'était en novembre. Et j'étais entre Jean Cocteau et Marlène Dietrich. Oui. Voilà, on a fêté tout ça. Et Jean Cocteau, qui était un homme, mais vraiment délicieux. J'ai adoré cet homme. On n'a pas arrêté de parler. Il me dit, de quel signe êtes-vous? J'ai dit, je suis du signe du cancer. Moi aussi. Mais vous savez que le cancer est très protégé, vous verrez. Ah bon, merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre ça, pourquoi pas?
Voilà. Oh, c'est génial, je partage, je suis cancer. Alors, je suis ravie. D'apprendre que je suis d'un signe protégé. Oui, moi aussi.
De quand?
Du 22 juin.
Pas déjà, moi 29. Voilà, du même décan, en plus.
On est connectés.
On est lunatiques, comme dit ma sœur. Vous êtes des lunatiques tous. Peut-être, oui.
Justement, vous évoquez votre sœur, Isabel García Sanz. Quelle est la famille dans laquelle vous êtes née? Il y a des frères, des sœurs? Que
non,
font vos
sœur,
parents?
J'ai une sœur qui est plus jeune que moi, 4 ans. Et c'est un grand peintre. Un grand peintre, elle est premier prix à 15 ans. Elle a fait des portraits, elle a eu une bourse pour aller à Florence, mais elle a fait des expositions partout, elle est formidable.
Et alors, comment ces deux sœurs ont découvert l'art, la musique, la peinture? Qui étaient vos parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous nous avez dit que vous êtes née à Madrid,
oui.
Et vous êtes ensuite arrivée tout de suite à Séville, qui est le berceau de la famille de votre père.
Oui, mais déjà, paraît-il, quand j'étais dans les bras des mamans, qui avaient une très bonne oreille, une petite voix même, très juste, et j'entendais quelque chose, j'ai gardé déjà les rythmes. J'avais les rythmes. Et puis l'oreille, j'ai... Déjà, je le faisais petite. Papa avait fait du piano, toute la famille de papa. Son frère aîné était violoniste, sa sœur chantait, et son frère le plus jeune était professeur de guitare à Cadix. Donc ça vient tout des familles, oui, oui.
Ah oui, une famille, famille très musicienne.
Ils n'ont pas exercé comme professionnels, mais ils ont fait de la musique tous. Était formidable, formidable, parce que vraiment, et quand vous passiez dans les rues de Triana, j'habitais à Triana, et vous savez que j'ai appris il y a seulement 6 ans que le pont de Triana a été construit par Eiffel. Je ne le savais pas. Oh, que j'ai vécu là-bas. Et je suis allée voir une amie qui m'a invitée, et quand je suis allée visiter Triana, j'ai passé tout mon temps à pleurer. C'était très fort parce qu'évidemment, c'est tous les souvenirs, l'église où j'allais à la messe, il y avait un arbre tout petit et j'avais un arbre qui couvrait l'église, évidemment. C'était vraiment quelque chose parce que j'y suis rentrée, j'ai vu la Esperanza de Triana, je suis allée voir la rue où j'ai habité, j'ai vu tout ça. Et vous savez, je me souviens quand je sortais de la maison pour aller au collège, qui était juste en face de la Torre de l'Oro, la calle del Betis, on avait beaucoup de gens, des gitans, et vous les voyez chantant comme ça, or qu'ils n'avaient rien à manger, qu'ils étaient pauvres, mais ils chantaient tout le temps. En Andalousie, on rigole, et on chante tout le temps. On a un caractère, ah non, ce qui n'est pas le cas de tout le pays, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Non. Mais c'est quelque chose, et nous... On était très contents d'y vivre parce que j'avais des parents extraordinaires. Vraiment, papa avait un humour en tant qu'Andalou. Il nous faisait rire aux larmes, aux larmes. On allait dans la rue avec ma sœur et on courait en chantant. Ça a été mon enfance comme ça. Mais je n'étais pas une fille facile parce qu'à partir de 13 ans, j'ai commencé à avoir des complexes, à me sentir. Je ne pouvais pas dire quelque chose, je voulais montrer quelque chose et papa disait « Ah non, tu parleras ?» Quand il faut. Tu n'as pas à interrompre les gens. On a eu, toutes les deux, une éducation très, très lourde. Mais je lui remercie parce qu'il avait tout à fait raison.
Donc, quel était le métier de votre père?
Papa était commissaire de police. Mais à Barcelone, il était à la Shore Patrol. C'est-à-dire, avec les Américains, où on l'envoyait lui parce qu'il était le traducteur. Et en plus, je ne sais pas comment il comprenait tous ces gens qui arrivaient des États-Unis avec un Américain, c'est pas de l'anglais, hein, c'est un Américain incompréhensible. Mais il les comprenait, il allait traduire et tout ça, et après il était commissaire de police, oui, oui.
Et il parlait plusieurs langues alors?
Plusieurs langues, il parlait parfaitement bien l'anglais. Papa avait le sens de la transmission. Et à moi, à 7 ans, il m'a mis à l'anglais et à l'allemand. On ne sait pas pourquoi, il n'a pas fait ça avec ma sœur. Mais moi, oui, ce qui fait que quand je suis partie à Vienne, j'ai parlé l'allemand. Et après, il m'a mis à Séville, au British Institute, et puis après, à Madrid aussi. Donc, j'ai parlé l'anglais aussi. Et maintenant, je parle italien à cause des opéras et des chanter en Italie, de parler avec des amis italiens. Je lui parle aussi.
Le français,
mais
on l'entend.
Mais papa, j'ai dit... Je me suis posé la question, je ne lui pose pas à ma sœur pour qu'elle n'ait pas de complexe, pour lui dire, écoute, pourquoi papa ne t'a pas inculqué de signer les langues comme à moi? On dirait qu'il voyait déjà, il était un visionnaire de ce que je pouvais faire.
Thank you.
Et votre mère? Vous nous avez parlé de votre père, mais votre mère, quel
Mama
était son caractère?
Maman était de Valladolid. Maman était très castillane. Elle vient d'une famille, en Valladolid, d'une famille formidable. Et ils sont venus après à Madrid, avec mon grand-père, qui était représentant dans les choses, et quand il y avait la vie, avec ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée à 42 ans d'un cancer de côlon. Il a laissé ma tante aînée, qui était avant de maman, à 17 ans. Maman avait 15 ans, mon autre tante avait 13, et mes autres oncles avaient 11 et 8 ans. 5 enfants, elle avait 42 ans. Donc maman, qui faisait des études assez poussées, il a fallu que je mette à travailler pour gagner sa vie. Et ma tante aînée, pareil, la troisième était trop jeune encore, elle s'occupait de mes oncles, mais ils étaient toujours très unis. On est une famille très unie, on continue à se parler, je parle à Madrid, je parle partout, ils sont, c'était toutes les semaines. Et vraiment, il était à Madrid, et papa était venu faire, parce qu'il voulait se présenter pour rentrer dans la marine, et il voulait rentrer dans la marine, et il s'est trompé d'étage, et c'est maman qui lui a volé la porte. Il est tombé fou amoureux de maman. Elle avait 19 ans. 6 mois après, ils se sont mariés. Donc, vous voyez, je suis née 9 mois après. Papa avait 21 ans et maman 19. Un couple comme ça.
Un Andalou et une Castillane.
Absolument. Papa avait un Andalou, nous les comprenions. Mais alors là, il paraît à une vitesse. Ni a tout ne savait na. Pero bueno, pero que me dice. Andate, t'es prisa, niña, que mutafe. O sea que... Claro, et maman me disait, toi tu parles bien le castillan, hein, s'il te plaît, hein, je ne vais pas t'entendre avec cet accent. Tu parles le... parce qu'elle était une puriste. Et voilà, c'est ça. Mais pendant la guerre, j'étais séparée de mes parents.
Oui, parce que vous êtes née en 1934. Et donc jusqu'à 39, vous êtes à Séville et ensuite vous restez d'ailleurs à
34,
Séville.
En 1934, attends, non, attendez. J'étais à Séville, mais ma marraine... Ma tante la plus jeune dit à mes parents, j'amène votre fille à Madrid et que Gabriel, papa, que Gabriel vienne la chercher plus tard. Ok, très bien. J'avais 14 ou 15 mois, bébé pratiquement. La guerre tombe à ce moment-là. Impossible de voir mes parents jusqu'à l'âge de 5 ans que papa est venu me chercher. J'étais mal élevée, pourrie. Pas la famille des mamans, parce que on ne lui dit rien à la petite. Ah non, 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 elle est séparée de ses parents. J'étais très bien, personne ne mangeait, mais il y avait pour moi, je mangeais. Bien habillée, tout était pour la petite. Tout était pour la petite. Donc j'ai à Madrid aussi des liens avec mes cousines qui sont nées au fur et à mesure. C'est un an d'écart, 2 ans d'écart avec mes cousines. C'est comme mes sœurs, je les téléphone, maintenant une a eu un accident, et je suis très préoccupée, je lui ai téléphoné encore ce matin. Donc on est très unis. Et évidemment, pour moi, c'était terrible, parce que quand je suis arrivée à Cadix, à ce moment-là, qu'ils habitaient, je trouve maman avec un bébé dans les bras. Ouh!
La petite sœur!
Ma petite sœur, j'ai fait la gueule, paraît-il, alors que j'étais très souriante et très sympa. Mais c'est normal, parce que quelqu'un qui avait été vraiment choyé par la famille, et tu arrives avec tes parents, je ne connaissais pas mes parents, parce que quand tu es bébé, tu ne reconnais plus les parents, comme dit, je suis papa. Il paraît que je suis restée de marbre, j'ai rien dit. Je l'ai regardé comme ça, comme un petit chien. Puis il m'a dit, on va voir maman. Alors là, maman, oui, d'accord, très bien. Mais... je n'aimais pas ma sœur du tout. C'est logique, hein. Et voilà, mais après, évidemment, c'est comme tout. Maman m'a expliqué, papa m'a expliqué. Il essayait de m'amadouer, mais j'étais très dure. Hein. Il paraît que j'étais pas facile du tout. Hein. Un jour, il paraît que j'ai pris un fer à repasser en fer. Je me suis mise dans le balcon. J'ai sorti le fer comme ça. J'ai regardé ma mère avec beaucoup d'insistance, comme en disant, qu'est-ce que j'ai fait? Je lâche le fer. Ah, moi, j'étais pas comme ça. J'avais 5 ans. Mais je voulais faire quelque chose que je devais pas faire. Je le savais, sans doute. Et maman est venue. Oh non, ma chérie, non, donne-le-moi, on va repasser toutes les deux. Tu vas voir, il va falloir qu'elle fasse vraiment.
vous vous rendez compte, on aurait pu tuer quelqu'un. On était au 30e étage. Ouais, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que je me suis un peu renfermée sur moi-même. Et ça, c'était terrible.
Vous aviez déjà des envies de liberté, d'exister,
ah, oui,
de
vous oui, exprimer. Je suis très indépendante. Ça, c'était mon problème. Je voulais m'isoler dans une chambre et maman me disait, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je rêve. J'ai rêvé. Je me faisais du théâtre toute seule. Ah oui, j'ai de l'imagination. J'ai beaucoup d'imagination. Je ne m'ennuie jamais avec moi-même. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est parce que c'est la nuit. J'étais une fille qui aimait beaucoup lire. Et en plus, après, à partir de 15 ans, j'ai lu Stephen Zweig, j'ai lu en espagnol, évidemment. J'ai lu tout parce que j'adorais lire. Et j'aime beaucoup. Mais maintenant, j'ai moins de temps pour lire. Mais pour mes vacances, et alors là, dans les trains, je pense parce que j'ai des amis qui ont écrit des livres que j'ai là. J'ai dit, écoute, excusez-moi, j'ai pas pu. Je l'ai acheté, mais je peux pas le lire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais j'adore lire. J'adore lire. Et j'allais déjà à Séville. Papa nous amenait au musée, parce qu'il aimait beaucoup l'art et tout ça. Il nous a éduqués dans les peintures. Moi, par exemple, quand j'étais petite, paraît-il, je m'endormais en chantant. Et ma sœur, elle était malade, par exemple, maman lui donnait un cahier et un crayon, et elle passait son temps à dessiner. Moi, je suis nulle en peinture, mais nulle. Autant, tous ces tableaux, c'est elle qui les a faits, tous ces tableaux. Donc, c'est ce qui fait que, évidemment, comme quoi on est né avec un don, ou on l'a ou on ne l'a pas. C'est ce que je pense.
Et après, quand on l'a, il faut travailler beaucoup.
Je n'ai fait que ça. Et à 13, 14 ans, j'avais une voix très grave où j'ai chanté des choses très flamenco, donc je chantais ça, quoi. Et j'ai appris le solfège au collège avec la bonne sœur, là, j'ai appris un peu de piano, j'ai chanté dans les chœurs pour les fêtes. La mère supérieure a appelé mes parents, parce que j'avais une voix déjà à 14 ans. Elle m'a dit, écoutez, vous avez une fille qui est très douée pour la musique. Vous devriez la mettre au conservatoire, à Séville. Ok, maman m'a pris par la main, m'a menée au conservatoire de Séville. Et là, je suis rentrée, c'était pas au début des cours en septembre, je suis rentrée, je crois, en janvier, avec un professeur de solfège comme ça. Je ne connaissais pas que les notes, c'est tout. Eh bien, j'ai attrapé 2 ans en une seule année. Parce que j'ai avancé, j'adorais. Les gens détestent les solfèges, je ne sais pas pourquoi. Ah, je n'aime pas ça, ah, je n'aime pas ça. Ah bon, très bien. Moi, j'adorais les solfèges. Donc, j'ai avancé très vite. J'ai fait les 3e année des solfèges. Et je me suis présentée au concours. J'ai eu la médaille d'or à Séville.
Oui. En solfège. Et vous faisiez un instrument à côté?
Non. Le piano, j'ai commencé quand je suis allée à Madrid, à 16 ans, que maman avait fait venir à Madrid pour voir Ángeles Oteil, mon professeur de chant, qui était un professeur formidable avec une technique à l'italienne. Et alors là, je suis inscrite au Conservatoire de Madrid.
Et j'ai commencé. Jusque-là, vous n'aviez pas fait de piano. Vous aimiez le solfège, mais juste le solfège
oui,
pour le
non,
solfège.
Oui, non, parce que je n'avais pas de piano à la maison. J'étais pas. Mais j'ai appris après. Et j'ai fait quand même 5 années de piano. Parce que sinon, de Madrid, vous ne pourrez pas sortir avec le diplôme de chant si vous n'avez pas de l'harmonie, de l'histoire de la musique. 5 années de piano minimum, un instrument. Okay, il faut avoir un instrument, ou les violons, ou l'orgue, mais il faut avoir un instrument. Il faut avoir art dramatique. Donc, j'ai fait aussi des années d'art dramatique. Okay, tout ça, je l'ai fait au conservatoire. Il y a 19 ans, j'ai eu mon prix avec tout ça.
Scotch.
J'ai travaillé comme une malade toute ma vie. Comme une malade. À tel point que je crois que ma vie de femme est restée en troisième et en quatrième lieu, parce que c'est la musique qui pour moi, c'était le plus important. Ce n'était pas la carrière, c'était la musique. C'est mon moteur depuis toujours. Donc, c'est ça. Après, tu as des choses, des accessoires à côté. Des fois mariée, des fois divorcée. Voilà, c'est tout.
Quand vous dites votre vie de femme, par exemple, ce seraient les enfants?
Non, j'ai perdu deux. Ils sont... Oui, j'ai perdu deux enfants. Je les ai perdus. Ils n'étaient pas nés, ils mouraient nés. Oui, mais bon, c'est le destin, moi je suis très fataliste.
Comme Jacques, le fataliste, Diderot, c'est écrit sur le grand rouleau.
Ah oui, c'est écrit sur le grand rouleau. Je dis, ben ça... Et en plus, ma mère avait une philosophie, elle avait un sens vraiment très logique, elle avait beaucoup de sens commun. Et quand je lui téléphonais parfois, je dis, maman, qu'est-ce que je fais? On me propose la péricole pour le chanter tous les jours au Théâtre de Paris, pour remplacer Jean Drott. Et puis en même temps, j'ai Fiordiligi à Strasbourg. Il me dit, qu'est-ce que tu préfères, chanter Mozart ou Offenbach? Ah, moi, j'aurais préféré chanter Mozart. Alors tu fais Mozart. Ça, c'était sa philosophie.
Oui, c'est fort, parce que c'est...
Elle était très forte, parce qu'elle avait un nez pour les gens. À papa, quand il disait, ah, tu sais, Pépé, formidable, il me dit, attention, méfie-toi. Je me méfie de ce... Oh, maman, il appelait, oh, maman, por favor. Ne sois pas si. Je t'ai dit, méfie-toi. Elle avait raison. Un jour, il vient, tu sais, tu avais tout à fait raison avec Pépé. Mais voilà. Comme quoi, c'est formidable quand on a des gens à côté qui t'aiguillent, tu vois, qui te dirigent, qui te font réfléchir. Alors, moi, je suis très comme ça. J'ai allé tout de suite, je faisais les choses. Maman disait, attends, réfléchis avant de faire une chose. Prends ton temps. Ne te précipite jamais. La précipitation est envoyée par le diable. Elle avait raison. On ne fait rien, devient la précipitation. Tu te casses la gueule, tu perds... Non.
Non, mais vous avez un tempérament passionné. Alors, naturellement, vous êtes précipité, c'est ça?
Ah, mais oui. Écoutez, on ne change pas. On se modifie, pas tout. Mais ce qu'on veut changer pour s'adapter. Moi, je m'adapte. Mais je reconnais que, ouf, ça m'écoute parfois de m'adapter.
Et c'est sur cet extrait de l'opéra d'Arane de Gilbert Bécaud qu'Isabelle Garcissens a chanté au début des années 60 que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Isabelle Garcissens. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Raymond Albouis, mixage Pierrick Charles, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.